Les terres de Babel, l'an de grâce 3015 du deuxième cycle. Un monde sauvage, autant au cœur de la nature que dans le cœur des femmes et des hommes qui vivent au milieu des jungles que sont les cités. Un monde que tout divise de par ses religions, ses langues, ses us et coutumes, et ses rois cupides, dévorés par la fièvre du pouvoir qui s'empêtre dans les complots et les trahisons. Une terre cruelle qui forge des êtres tout aussi impitoyables qui, dans leurs veines, coulent le sang, le feu et l'acier. En ce lieu, l'amitié et l'amour sont d'autant plus précieux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de celles et ceux qui y survivent assez longtemps pour que leur nom soit chanté et qu'il soit gravé à jamais dans les Chroniques de Babel.
Précédemment, dans les Chroniques de Babel, Solomon, Ygritte et Kenan ont affronté une créature tout droit sortie du passé de Solomon, l'un des quatre lieutenants nécromants œuvrant au retour de l'empereur mort chez les vivants pour reconquérir les terres de Babel. Une victoire momentanée et amère, puisque le nécromant s'est échappé. Présentement à la forteresse de la capitale, accueilli par l'un des deux rois des îles de fer, le roi de Roc, nos héros sont à moins de 24 heures du duel judiciaire opposant Solomon à Euron Swan, celui-là même qui les a hébergés chez lui sous le nom de Capitaine Neufdoigts. Retournons voir Kenan qui s'entretient avec Griva, le conseiller enténébreur du roi Guntor Timbal. On se transporte dans les couloirs. Alors que Kenan marche à côté de ce Griva. Vous avez fait parler de vous lors de la traversée, jeune scribe.
Ah bon?
Et là, tu vois qu'il ralentit le pas jusqu'à s'arrêter et se retourne pour te regarder intensément. Ambassadeur ou pas, je pourrais vous faire brûler vivant, immédiatement, pour usage de la ténèbre. Les rumeurs courent sur la marée rouge. Il n'y a pas de rumeurs, pas de fumée, sans feu. Qu'est-ce qu'on voit sur le visage de Kenan?
Un visage assez, assez fermé. Il essaye de cacher sa surprise. Il essaye de ne pas montrer, pas essayer de se dénoncer tout seul.
Ah, j'aime ça, moi. Ah oui, on va faire un jet. Ben oui, mentir,
ben oui, bien
mentir acté, bien sûr. On va voir si ça part dans la bonne direction, ça fonctionne bien pour Kenan. Sous charisme. Mentir, acté, berné. Tu as 6 quand même, c'est... 70.
7.
Oh! C'est une réussite totale. Je vois que vous n'avez pas froid aux yeux. Écoutez, je ne vais pas insulter votre intelligence et passer par 4 chemins, Kenan Karaman. Je ne suis pas un ferné. Je suis breton. Comme vous devez le savoir... La Brette est l'une des 4 provinces du Dominion. Il y a une 30aine d'années, j'ai été capturé sur un navire du Dominion. J'aurais pu m'échapper aisément, mais à quoi bon? Le roi du Dominion de l'époque, Marcus Rimond XVII, faisait traquer les enténébreurs sans relâche par son ordre du bûcher et de ses inquisiteurs. Valait mieux être un puissant chez les ignares que sont les fernés qu'un fugitif dans le Dominion. Ah. Savais-tu que lire et écrire... était un signe de faiblesse et un acte dégradant chez les fernés. Tu vois son découragement, c'est comme s'il venait de se confier à toi, Kenan. La conséquence d'avoir eu un bon jet, tu as comme mis un peu en confiance.
Je peux imaginer, effectivement.
À part leur
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'endroits où la lecture n'est pas bien vue.
Effectivement. Et je suis ravi d'avoir un maison ici. Vous êtes un peuple ouvert, des commerçants, des... À part leur foutue carte de navigation, pas un morceau de papier existe ici, ou si peu. Je suis entouré d'incultes. Courageux, fier et intelligent pour certains, mais des cancres tout de même. Je me fais vieux. Et impossible de choisir un apprenti qui ne saurait pas lire, ni désireux d'apprendre. Ici, j'ai plus de poids qu'un roi. Et là, il te met une main sur l'épaule, comme le ferait un membre de la famille ou un ami. Si vous acceptez de rester auprès de moi, je vous apprendrai tout ce que je sais sur la ténèbre. Ici, vous serez un prince sur les îles de fer.
On peut voir les yeux de Kenan s'illuminer à ce moment-là. Je sais vraiment pas quoi dire. Je m'attendais pas à ça.
Vous manipulez déjà la ténèbre. La moitié de l'équipage de la marée rouge en parle. Vous êtes éduqué. Je vois dans votre regard cette soif de connaissance. En vous, je me vois jeune. Ensemble, Kenan Karaman, nous pourrions faire des miracles sur les îles de fer. Ce peuple a grand avenir. Demain, ce Solomon mourra. Ils auront regagné une fierté perdue pour qu'est-ce qui est des pirates et des marins. Ensemble, voulez-vous bien?
Je ne suis pas aussi sûr que vous que Solomon va échouer. Et s'il a réussi, s'il survit, qu'est-ce qui se passera?
Les deux possibilités sont là. C'est à Solomon de choisir. Curieuse phrase qu'il vient de te dire. Tu comprends que les deux possibilités sont autant prises en considération et que le destin, si ça penche d'un bord ou de l'autre, ce serait selon la décision de Solomon. T'es peut-être même pas certain d'avoir bien saisi ce qu'il a dit. Écoutez, demain, il y aura un gagnant. Et demain, ce peuple aura besoin de leaders. Je sens cette force en vous. Veux-tu me faire un jet de cerner quelqu'un? Tu as combien sur cette compétence sous-mentale?
4.
Tu as combien?
4.
Oh, à toi, ouais. Tu vas me faire ton jet à 40%.
Ok, à 17.
Et c'est une réussite! Tu comprends que tu gagnes par défaut. Je veux dire, il n'y a pas vrai... Tu sais, il te flatte, c'est certain, mais quel choix a-t-il? Tu sais, c'est...
Ben en fait, est-ce que j'arrive à voir derrière ça une intention un peu malsaine derrière ou...
Malsaine, écoute, t'as réussi à le percer à jour aussi, puis déjà, tu vois qu'il avait déjà commencé à, sans doute qu'il avait besoin, puis qu'il est tout content de voir quelqu'un qui est un lettré. Là. Tu vois que c'est sincère qu'est-ce qu'il t'offre. Il cherche vraiment à léguer son héritage. Mais, tu gagnes quand même par dépit. Il t'enterrait des loges pareilles, là. T'sais, c'est comme... T'es seul candidat, là.
Ouais, c'est ça. Il est désespéré, quoi.
C'est un peu ça que je voulais dire. Ça résume bien tout ce que je cherchais à dire de façon très laborieuse.
Écoute, voyons que son âme a l'air sincère, là. Je vais faire un signe d'acquiescement à ce qu'il me dit et... Je vais lui montrer le chemin pour aller un peu plus s'écarter du palais. Je vais lui dire... Alors, entendu, on a un peu de temps avant le combat. Montrez-moi un petit extrait.
Et là, tu vois son visage s'illuminer au-dessus d'un sourire. Béat. Il va falloir que tu me dises, Kenan, si tu... T'as-tu vraiment l'intention de rester sur les îles de fer?
Non, bah, mon intention, là, c'est pour l'instant... de profiter de ce qu'il m'offre pour en apprendre un peu plus le temps que je peux rester. Après, je dans mon fort intérieur, je pense et j'espère que Solomon va réussir son combat. Donc après, je suis plutôt décidé à rester dans le groupe et puis les suivre si jamais ils veulent partir ailleurs pour les aider.
On va peut-être juste...
Là, mon idée, c'est juste ça, c'est d'apprendre un peu avec lui et puis...
Ok, parfait. Et là, tu vas voir Kenan que, oui, mais il est pas fou non plus. Tu sais, c'est peut-être un être qui est facilement perçable à jour, mais il t'en montrera pas beaucoup. Juste assez pour te titiller, pour captiver ta curiosité. Et en quelque part, peut-être bien malgré lui, mais toi aussi, tu vas te retrouver en cellule à la fin de cette journée. Et la caméra recule alors qu'on voit tes deux mains qui emprisonnent deux barreaux et qu'on commence à voir ton visage et la caméra s'éloigner de cette cellule. Solomon,
oui.
Tu marches aux côtés du roi Gunther sur un immense balcon rectangulaire aux angles droits et carrés sans aucun ornement.
Et que je pourrais le pousser facilement?
Oui, parce qu'il y a seuls deux gardes vous surveillent, Solomon.
Okay.
Et encore ici, mais ils sont à bonne distance. Si tu prenais le goût de lancer le roi Gunther Timbal en bas du balcon, plusieurs mètres plus bas, ben rien ni personne pourrait t'en empêcher. Et comme s'il avait pensé, c'est comme s'il avait réussi à déceler cette pensée qui te furtivement passait par la tête, il te dit Je n'ai pas peur de vous. Vous savez, en fait, il y a longtemps que je n'ai plus peur de la mort. De plus, vous avez déjà assassiné un roi. Je ne crois pas que vous désiriez en faire une habitude ou une carrière. Pas pour le moment, du moins.
Et là, tu vois qu'il s'approche du garde-fou. Un garde-fou plein, épais de 30 cm, fait de la même pierre qui constitue tout le bâtiment. Et son regard va vers l'immensité de l'océan, au loin, qui semble immobile, comme endormi.
N'ai-je pas raison?
Et il prend le temps de te lancer un regard avant de replonger celui-ci vers l'océan.
Quand vous dites que je ne suis pas prêt à devenir un régicide accompli deux fois, vous voulez dire par là, vous faites référence à la prophétie? Que je pourrais mettre à feu et à sang le monde et les rois?
Ah.
Ou c'est quelque chose que vous ignorez?
Griva m'a fait part de ces histoires.
Mm-hmm.
Vous croyez qu'un rêve, qu'un songe peut forger la destinée d'un homme, frère Solomon?
Bien sûr que non.
Alors nous sommes du même avis. Laissons les rêves et les songes aux enfants. Nous, les fermés, nous ne pouvons vivre sans la mer, cruelle et indomptable, comme la vie elle-même. Les fermés se meurent, frère Solomon. Nous sommes devenus des charognards. Nous repaissons des quelques bateaux que la mer dédaigne nous faire croiser, ou des misérables villages qui longent les côtes, les plus petits sans défense. Nos îles sont stériles, peu de pâturage, presque plus d'arbres. Et le roi de sel, Théron Greffer, a eu la folle lubie de mettre la main sur vous en échange de 5 années de paix avec les Maisons. Pure idiotie. Le commerce Maisons représente à lui seul près de 40% des navires en mer. Et nous vivons tout juste. Comment allons-nous faire maintenant? Et comme si ce n'était pas assez, les Danlandais prennent de plus en plus la haute mer pour nous concurrencer. Nous mourrons à petit feu, frère Solomon.
Lorsqu'il a parlé des Danlandais, on fait référence à un peuple qui est très proche des Vikings, qui jusqu'ici s'attaquait à quelques villages côtiers, mais de plus en plus, avec leurs navires faits pour traverser les rivières, ils s'aventurent dans la mer. Et c'est une concurrence de plus pour les fermer. Il continue de contempler la mer au loin, comme s'il attendait une réponse d'elle.
J'ai perdu une sœur et deux frères dans l'incendie déchaîné par votre père, frère Solomon. Je ne vous en veux pas pour autant. Votre père, non plus d'ailleurs. Il ne faisait qu'obéir à son roi. Les Irimondes 17, ce sont eux qui apportent l'infortune sur ce monde. Ils ont toujours été assoiffés de pouvoir et de conquête. Marcus mort, le fils Joach, prendra tôt ou tard la relève. Assurément, l'ambition coule dans leurs veines.
Il se retourne vers toi.
Si vous êtes ici, ce n'est que pour laver la conscience de nos capitaines et de nos pirates, ainsi que celle du roi de sel, Théron Greffer. Lorsque votre père a incendié cette capitale, il n'y avait que 6 ou 7 navires au port. La population de Pike a payé pour les crimes de nos pirates en mer. Et ils s'en veulent toujours pour ça. Moi, Guntor Timbal, roi de Rock, je ne gagne rien à voir le fils de Tanis Santagar, ancien connétable du Dominion, mourir demain dans le sanctuaire.
Il tend sa main comme pour prendre la tienne.
Si vous rentrez au pays, au Dominion, vous serez accueilli comme un héros. Vous serez accueilli par le roi Joach. Irimonde, il vous recevra.
Et là, il serre ta main un peu plus.
Et vous aurez la chance de l'assassiner. Les Fernés n'ont pas d'avenir sur les îles de fer. Comprenez-vous? Nous nous préparons. Nous avons trouvé une arme. Les Irimondes doivent tomber. Le Dominion doit tomber, lui qui vous a abandonné, en échange.
Vous voulez que vous introduisez cette conversation en me disant que je ne devrais pas prendre l'habitude d'être un tueur de rois, et c'est exactement ce que vous êtes en train de me demander.
pour la cause commune, pour le peuple des Fernets, et pour éliminer une bonne fois pour toutes la menace que fait peser le Dominion sur Babel. Une mission royale. Frère Solomon, vous devez rentrer au pays et assassiner Joach et Rimmon. En échange, je vous ferai gagner demain. Nous pouvons droguer le capitaine Euron Swann.
Je ne comprends pas l'intérêt d'assassiner ce nouveau roi. S'il est mort, sa sœur ou un autre prendra sa place simplement.
N'essayez pas de jouer sur un échiquier où vous ne connaissez rien. Frère Solomon, vous êtes et vous avez été un grand commandant. Croyez-moi, il faut que Joach et Rimmon meurent. C'est la première étape de l'invasion du Dominion. Acceptez.
Et là, il va y avoir effectivement un genre d'état émotionnel qui va envahir Solomon, qui va être encore la colère. Il va agripper l'avant-bras du roi Timbal, tu sais, comme s'il serrait la main, de la même façon qu'il a serré l'avant-bras d'Euron, pour que les gardes s'inquiètent pas trop en même temps, mais il serre vraiment l'avant-bras du vieil homme de toutes ses forces. Il le regarde dans les yeux. C'est vrai que je comprends rien à votre jeu d'échecs. Mais vous, ce que vous comprenez pas, c'est que moi, j'en ai soupé d'être un pion sur cet échiquier. Et là, je repousse le roi.
Aussitôt que tu repousses le roi, lui qui a enduré la douleur, hein, l'orgueil mal placé des Fernets, il a serré les dents. Et là, tu le repousses, il vient heurter le garde-fou. Et aussitôt, les deux gardes qui vous observaient de loin ont mis leur épée au clair et avancent arme en main. « Mécréant !» Et il s'apprête pratiquement à lever l'épée sur toi, Solomon.
Les gardes, tu parles?
Oui.
Ou Gunther? OK.
Donc, Gunther est comme penché, voûté. Il a heurté le garde-fou. Alors qu'on voit un des gardes, et les deux ont dégainé, mais il y en a un plus prompt que l'autre, a commencé à lever son arme, prêt à l'abattre sur toi.
OK. Est-ce qu'il était à une certaine distance quand même? Hein,
oui, quand même assez loin, okay. 10 mètres facile. Hein.
Parfait. Donc, je vais me tourner devant les deux gardes. Vous allez faire quoi? Me tuer? Enlever le magnifique spectacle qu'on s'apprête à donner à votre populace de ma mort?
Il suffit! Il suffit!
Le roi Gunther Timbal se relève, s'aidant du garde-fou, son bras tendu en direction des deux gardes qui avançaient vers toi.
Il suffit. Retournez à votre position.
Et là, le roi te regarde, toujours un peu plus voûté, hein, peinant à reprendre son souffle.
L'honneur n'a pas sauvé l'âme de votre père, Solomon. Il pourrit sans doute en enfer pour tous ses crimes. Et pourtant, il a toujours agi en homme d'honneur, en obéissant. L'honneur ne vous sauvera pas. Je vous offre la chance de survivre demain et de faire quelque chose de bien en tuant la dernière tête d'une famille de despotes. Refusez-vous ou acceptez-vous?
Je refuse de gagner demain en trichant.
Tu vois qu'il ferme les yeux.
Sachez bien que je pleure sur la destinée du peuple des Îles de Fer. Vous êtes un peuple fier et je respecte ça au plus haut point. Mais je ne deviendrai pas un assassin pour vous. Hors de question.
Alors demain vous mourrez, frère Solomon. Amenez-le! Amenez-le à la cellule!
Et là, alors que les deux gardes t'amènent de loin, tu entends encore le roi ronchonner.
Tout ça pour l'honneur. Lorsque vous aurez mon âge, frère Solomon, vous verrez que l'honneur ne nourrit pas un peuple, que l'honneur ne redresse pas les chines des guerriers, que l'honneur ne réchauffe pas les familles. L'honneur.
Et le vieil homme s'effondre sur son balcon, seul, sans honneur.
Chapitre 2. Le duel.
Solomon, tu es à bord d'un chariot que l'on pourrait qualifier de fourgon cellulaire, une énorme boîte en bois dans laquelle tu es prisonnier et où les rares interstices entre les planches te procurent un peu de lumière, car même la porte arrière est faite d'un bois massif. Et ce n'est pas plus mal, car alors que ta petite prison tremble sur une route que tu devines passablement accidentée. Tu entends dehors la foule t'invectiver d'injures et d'insultes, et le tout ponctué d'impacts de pierres qui viennent tester la solidité de ta cage en bois. Comme il s'agit du caisson arrière d'un chariot, tu peux quand même te déplacer de quelques pas et presque te déplier entièrement pour te redresser. Tu le sais, on te conduit à l'endroit que les Fernés appellent le sanctuaire, une autre construction des anciens bâtisseurs qui servira aujourd'hui de scène pour ton duel judiciaire contre le capitaine Neuf Doigts, Euron Swan. Comment te sens-tu alors que tu es brassé de gauche à droite dans ta prison mobile?
En apparence, Solomon est emmuré dans un mutisme sinistre. Il ne dit aucun mot, la tête penchée, regard vers la foule quand même, au cas où que ça se met à dégénérer. Mais dans son esprit, ce qui se déroule, en fait, le mécanisme de sa pensée tourne autour du roi qu'il a rencontré, Hendrick. Pas Hendrick, c'est...
Timbal, le cousin, oui. Du capitaine qui vous a conduit jusqu'ici. Merci.
Oui, Timbal. Et donc, de ce qu'il lui a demandé, puis il est encore en colère, parce que il sait que toute sa vie a été régie par des rois cupides et que c'est loin d'être terminé jusqu'à ce qu'il s'en émancipe totalement. Et donc, il est encore sur le coup de la frustration là, par rapport à l'entretien qu'il a eu.
Toujours cet état émotionnel que tu gardes en banque. Dis-moi, Solomon, soyons honnêtes, toi et moi. Là, on est tout seul là, dans cette cage en bois qui te porte jusqu'au lieu du duel. Tu y crois vraiment qu'un jour que tu vas t'émanciper, que tu vas te libérer du joug des rois de Babel? Y crois-tu vraiment? As-tu vraiment espoir?
Oui, j'ai vraiment espoir. Et cet espoir-là est tout de même teinté d'une peur. La peur que de vouloir absolument s'émanciper du pouvoir et de tous, ça fait que ça pourrait m'amener sur le chemin que la prophétie annonce. Celle que je suis censé détruire pratiquement une partie du monde. Évidemment, ça me semble complètement farfelu, mais étant ténébreur moi-même, je sais quelle peut être la portée des pouvoirs d'un enténébreur et d'un loin voyant. Et si ça a été annoncé par tous les loin voyants du monde, à quelque part, est-ce qu'il pourrait y avoir un fond de vérité, tu sais?
Effectivement, c'est troublant. Et dis-moi, seul dans cette cage, est-ce que tu revois encore des images? Tu t'étais fait des scénarios avec Sœur Kellan. Tu te voyais sur une ferme, élever vos enfants, être loin de tout ça. Est-ce que tu as encore ces rêves? Ou tu as espoir de la revoir, peut-être avec même ton enfant, qui devrait avoir 4 ans aujourd'hui?
Un espoir, oui. Par contre, de pouvoir faire partie de leur vie et d'avoir cette vie-là avec une ferme, une vie normale, finalement, cet espoir-là est extrêmement faible, quasi annihilé par ces 4 ans-là exilés. Ou est-ce qu'elle me croyait mort? Donc, dans ma tête, tout a pu se passer. Et de toute façon, si mon retour est annoncé au Dominion, il y a très peu de chances qu'on me laisse avoir cette vie-là. Donc...
Effectivement, tu as prononcé des vœux. Comme...
Donc, j'ai très hâte de retourner au Dominion, oui, pour savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur vie. Mais reprendre une place, peut-être pas, parce que je sais que ça pourrait les mettre en danger.
Et oui, effectivement, on parlait de vœux. Hein, les frères de la Rondache font vœux pour une vingtaine d'années. Donc, lorsqu'ils sont libérés de leur formation à 16 ans, ils servent l'ordre de la Rondache pendant une vingtaine d'années, donc jusqu'à leur 36e anniversaire. Et tu n'es pas là. Donc, il te reste encore des années à faire. Sinon, tu seras traité comme un hérétique si tu venais à déserter. C'était donc une peur aussi de Sœur Kellan, lorsque vous parliez de vous enfuir tous les deux.
Oui, d'ailleurs, s'émanciper de l'ordre est un des objectifs. Des objectifs à moyen terme de Solomon.
Très bien, frère Solomon. Après 3 heures à te faire brinque-baller dans l'obscurité, le chariot s'arrête. La dernière heure du trajet, tu l'as senti, fut pénible. Une pénible ascension pour les chevaux qui tiraient le véhicule. Maintenant, ainsi immobile, tu n'entends plus un son à l'extérieur. À part une rumeur sourde, comme les rugissements d'un océan qu'on pourrait percevoir au loin. On ouvre la porte dans un grincement. Aussitôt, des dards viennent te piquer les yeux, tellement le contraste entre les ténèbres et la clarté est violent. La vibration durant les 3 heures de route a engourdi tes membres. Et un fourmillement persiste à les hanter et les rendre plus lourds. C'est une dizaine de gardes qui t'invitent à te diriger vers de grandes portes qui semblent avoir été imaginées pour des géants. La rumeur que tu percevais, Solomon, mais tu le comprends maintenant, c'est celle de la foule que tu entends gronder tout en haut. Tu ne les vois pas, tout en haut de cette structure. Combien sont-ils? 5 000? 10 000? Mais c'est tout un raflet. Tu reconnais encore le style des anciens bâtisseurs ici. Le gigantisme des pièces, la hauteur vertigineuse des plafonds, la pierre lisse, mais qui sont jaunis ici par le manque d'entretien, contrairement au palais de la capitale du Dominion, Blanche-Lys, et des statues aux proportions divines, ici et là, comme des gardiens silencieux et immobiles d'une civilisation disparue, avec ses secrets et le pourquoi de sa chute. Est-ce que tu as un regard pour ces hommes, pour ces gardes qui te conduisent, sans ménagement, mais sans te persécuter non plus?
Non, je suis totalement concentré dans ce qui m'attend et je suis complètement conscient que c'est peut-être les derniers moments de paix, entre guillemets, que j'ai peut-être sur cette terre, parce que je suis pas dupe et l'homme que je vais affronter est probablement un meilleur bretteur que moi.
Et que ressens-tu aussi du fait que tu pourrais mourir de la main de Ron, ou que toi-même, tu risques de le tuer?
Pour ce qui est de ma mort, je me dis que tant qu'à mourir, j'aime autant que ça soit par la main d'un homme que je considère honorable et presque un ami. Et s'il faut que je le tue, je pense la même chose pour lui, qui a bien pire comme mort. Que j'ai essayé d'y en parler, mais qui est vraiment entêté dans cette voie-là, qui a pas le choix, qui est préparé.
Vous avez tous les deux vécu en guerrier, et c'est une mort de guerrier qui vous attend peut-être. On te conduit dans une cellule. La grille se referme sur toi, et on te laisse seul, à tes réflexions, alors que tu entends encore cette foule gronder. Au loin, tu discernes même une voix haute, perchée, qui semble galvaniser la foule, comme si elle n'en avait besoin. Mais à travers les pierres des anciens bâtisseurs, impossible d'en comprendre le sens vraiment. Tu es certain cependant que ton nom et celui de ton père, Tanis Santagar, sont au cœur du discours. Alors que tu es là, peut-être assis au fond de ta cellule, à économiser tes forces, à dégourdir tes membres en faisant craquer tes doigts, en faisant tourner tes poignets, des bruits de pas s'approchent. Une silhouette massive, celle d'un combattant. Un homme grand, chauve et barbu, d'un poil noir strié d'un peu de gris, qui s'immobilise devant toi, devant la porte de ta grille. Une cicatrice part de son arcade sourcière gauche et finit en diagonale sur sa joue droite, le tout en coupant le nez. Santagar, te voilà enfin. Tu as devant toi le roi de Sel, Terran Greffer, lui qui a tout fait pour t'amener ici, dans cette cellule, dans ce sanctuaire, pour ce moment. J'ai imaginé tant de fois ce moment où je me retrouvais devant ton père. Le dieu noyé a été bon. Apprendre la mort de ton père pour ensuite découvrir que son fils était toujours en vie
dans une prison mésoène. Parfois, les prières peuvent donner écho.
Solomon, allons-y avec un jet de analyser la situation. De par les paroles qu'a prononcées le roi de Sel, tu as combien en niveau d'action?
7.
Tu vas me faire ton jet à 70.
81. J'analyse que dalle, j'analyse mes couilles.
Non, ben écoute, cet homme, ben il te fait pitié, hein, emprisonné dans cette rage cuvée depuis une vingtaine d'années. Et tu le vois cracher au sol.
Pfff, le capitaine Neuf Doigts ne fera qu'une bouchée de toi sans ta gare.
Et là, il part pour parler, et là, tu vois, on les entend avant de les voir, des gardes qui arrivent.
C'est l'heure, mon roi.
Très bien. Qu'on l'amène, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes.
On vient ouvrir la porte de ta cellule. On te conduit, encore cette douzaine de gardes, et on t'amène vers de grandes portes doubles. Mais juste avant, on voit une demi-douzaine de râteliers qui supportent des armes de toutes sortes. Cependant, tu vois aucun équipement de protection, mis à part quelques boucliers. Ce duel sera un combat à mort, donc on voit pas la nécessité du cuir et du fer ici. Mm-hmm. Et là, tu vois les gardes s'arrêtent devant les râteliers.
Servez-vous, fils de l'incendiaire.
Étant habitué à manier toutes sortes d'armes, j'ai toutefois été spécialisé dans certaines au fil des années, au fil des guerres. Et tout de suite, hein, mes yeux vont chercher à trouver un marteau d'armes et un écu. Et aussitôt que je vais en avoir vu, je vais les tester, m'assurer de leur solidité.
Aussitôt que tu commences à les agiter un peu, là, tu vois les gardes reculer de 2 ou 3 pas, pointer lance et épée vers toi.
Oh, tout doux, l'ami. Gardez vos moulinets pour le spectacle.
Allons, allons. Ayez pas peur d'un pauvre homme qui sort de prison après 4 ans.
Le capitaine de la garde... Un léger sourire, très léger. Tant de rumeurs circulent sur vous.
Allez, ouvrez les grandes portes. Les doubles portes s'ouvrent devant toi. Elles aussi sont énormes, à l'image de tout ce qui se trouve dans les bâtiments des anciens bâtisseurs.
Et la clameur rageuse de la foule te frappe alors, comme une onde de choc. Une clameur continue et qui monte en intensité au fur et à mesure que les portes ouvrent et que tu avances dans ce jour qui décline lentement.
Il ne s'agit pas du tout d'une arène avec un sol en sable ou en terre battue, hein, ce qui est le cas habituellement, mais d'un plancher de la pierre des anciens bâtisseurs, lisse et froide. Une arène ovale qui semble suspendue au flanc de la falaise d'une chaîne de montagnes. L'air ici est frais et marin. Tu évalues à peut-être 4000 personnes le nombre de spectateurs qui sont là. Le gros de la population des Fernés devait se trouver sur le long de la route qui te conduit jusqu'ici à te lancer des pierres et des fruits pourris. 2 hommes se tiennent au centre de l'arène. Euron et l'enténébreur Griva. Euron a rasé ses longs cheveux roux. Les yeux qu'il pose sur toi, Solomon, portent 2 sentiments. Tristesse, mais aussi la détermination. Le vieil homme, l'enténébreur, avance à ta rencontre.
Le roi Gontor Timbal vous a fait une belle offre, moine guerrier. Étonnamment, sa voix est très jeune. Je m'étonne de ce refus.
Et là, tu peines un peu à l'entendre tellement la foule se fait présente.
Mais il n'est pas trop tard, te dit-il en se penchant un peu à ton oreille. Une fois le Dominion envahi, le roi Timbal veut démanteler ce royaume en quatre, comme autrefois. Il vous offre Orléans. Vous seriez duc. Il n'est pas trop tard.
J'ignore superbement le vieil homme, le vieil enténébreur Griva, et je me concentre que sur le combat à venir. Je suis encore dans ma fureur, ça se voit, les dents serrées. Ces magouilles politiques, j'en ai plus qu'assez, et je m'enferme dans ma bulle, ignorant ce que le vieil homme a à me dire.
L'enténébreur Griva s'éloigne et s'apprête à donner le signal aux hommes de corps de souffler le début du combat. L'image s'attarde alors sur Euron Swann, l'homme qu'on appelle tous le capitaine Neuf Doigts, qui ferme les yeux. On a un cot et on se retrouve dans la maison de sa famille. Dans un coin de la salle à manger, Tasha, sa femme, prie avec les deux enfants. Brandon, 4 ans, serre tellement fort ses petites mains l'une contre l'autre qu'elles en tremblent. La petite Margot, elle, prie à voix haute, alors que son petit frère et sa mère se sont réfugiés dans le silence.
Dieu noyé, faites en sorte que mon papa revienne. Je ferai tout ce que vous voulez. Lorsque papa me dira de faire quelque chose, je vais l'écouter. Lorsqu'il me dira de dormir, alors je ferai tout pour y arriver. Je vous en prie, mon Dieu.
La caméra s'éloigne alors d'eux. On n'entend que les pleurs de Margot, la petite Margot, et on revoit le visage de Ron. Toujours les yeux fermés, il murmure « Je vais retrouver ma femme ». On entend le corps sonner, le début du duel judiciaire. Es-tu prêt, NG?
Oui.
Je te laisse. Qui fonce le premier, selon toi?
Écoute, je pense que lorsque le corps sonne, je crois pas que Ron ni moi, on soit homme à charger comme ça précipitamment l'autre. Je nous vois bien tourner l'un autour de l'autre en train de juger les mouvements de son adversaire. Et avant que la première passe d'armes ait lieu, je vais tout simplement dire à Euron, avant qu'on s'entretue, mon ami, pour une rancœur qu'un roi porte dans son cœur, je veux au moins te dire que on m'a offert une victoire aujourd'hui. Ils étaient prêts à t'empoisonner à condition que j'assassine le roi, mon roi. Et donc, avant qu'on s'entretue, je tenais à, si t'en sors vivant, à ce que tu saches pour quel genre d'homme t'es en train de te battre aujourd'hui.
Tu peux sentir le trouble d'Euron alors qu'il jette un œillade en direction de l'estrade, là où ce qu'il y a les voilures, où les deux rois sont installés, à bonne distance cependant, le roi de sel et le roi de roc. Un regard mauvais lancé par Euron. Et votre jeu de vos jaugés attise la foule, alimente le spectacle. Qui enverra le signal d'envoi le premier entre Solomon et Euron Swann?
À un moment donné, on va arrêter de se tourner un autour de l'autre et je vais camper mes deux pieds sur le sol, relevant mon bouclier de ma main gauche, hein, venant cacher la moitié de mon visage et une partie de mon torse. Et de l'autre main, reculé, hors de vue de Ron, je tiens mon marteau et j'augmente mon allonge, c'est-à-dire que ma main s'ouvre pour que le marteau glisse et je la referme au dernier moment sur le bout du manche, afin d'avoir une plus grande allonge.
Oh, et tu joues de feinte!
Et j'attends que Ron fonce vers moi.
Très bien. Tu le sais, tu l'as senti, mais aussi ton maître dans la ténèbre, hein, le défunt Caliban. Euron est animé d'un don, le don du combattant. Normalement, tu devrais avoir 60% contre un tel guerrier. Parce que tu es un héros, Solomon. Tu as été entraîné pour ça. Mais avec son don,
Mais tu te retrouves avec un adversaire aussi coriace que le capitaine Kalshadim. Vos jets sont à 50%, mais cette tactique pourrait être payante. Ce premier jet, cette première passe d'armes se fera donc à 60%. Alors que vous étiez à égalité, je te donne un avantage de 10%. Sache en profiter parce que on sait que le système crampe est punitif. Le premier qui va rentrer avec une réussite totale pourrait faire pencher la balance pour le combat. Vous n'avez aucun équipement de protection sur votre corps. C'est un combat à mort. C'est parti.
Oh! On arrête le combat!
La légende!
Réussite critique!
La légende de frère Solomon, qui était déjà passablement grande, connue dans plusieurs royaumes de Babel, va sans doute s'agrandir. Mais ce n'est pas la fin du combat pour autant. Avec ton marteau d'armes, c'est 4 de dommages que tu fais. Sur un critique, on rajoute 2. Cela fait 6. Sur 10 points de vie, on en a 6 qui partent. C'est un moins 10 qu'il va avoir à tous ses jets. Donc, c'est un sacré coup et j'ai hâte que tu me décrives ce formidable coup que tu y envoies.
Euron, donc, avance d'un pas déterminé vers moi. Et alors qu'il est sûr de son allonge, la surprise est dans mon dos. Et tout d'un coup, au dernier moment, je baisse mon bouclier et mon marteau fait tout simplement un cercle en l'air, vient illuminer la scène brièvement avec les derniers rayons du soleil sur le métal. Et on voit ce cercle se terminer lorsque le marteau vient percuter la tête d'Euron, qui, complètement étourdi, voit 36 chandelles et tombe sur son séant, il tombe sur le cul, sonner, et là, je pense, on entend un silence de mort dans les estrades, les cris d'encouragement d'Euron et les cris de mort à mon endroit cessent immédiatement. L'homme qui était réputé imbattable vient de se retrouver humilié en une fraction de seconde.
On voit Euron au sol, qui tient toujours son sabre, mais visiblement, sans doute perdu l'usage de son œil gauche. Ce marteau qui est parti avec une partie de sa chair et une bonne partie du côté de gauche. Tu le vois secouer la tête. Normalement, la plupart des guerriers, t'aurais été surpris de les voir se relever d'un tel choc. Mais tu entends les lèvres maintenant ensanglantées d'Euron prononcer Tasha, le nom de sa femme. Et aussitôt, il roule sur ce sol lisse de pierre des anciens bâtisseurs. Il se réceptionne sur un genou après sa roulade et se relève. Un seul œil sur toi, mais chargé de la détermination de 2. Et il fonce sur toi à nouveau avec un cri de rage. Que fais-tu?
Cette fois-ci, je réponds à son cri par le mien et je fonce vers lui avec une tactique qui m'est chère, qui m'est propre et qui m'a valu maître réussite par le passé. C'est tout simplement de foncer vers lui, bras gauche vers l'avant, tendu devant son seul œil valide, hein, afin de lui cacher une bonne partie de la vision périphérique. Et mon marteau prêt vient s'abattre vers le bas. Donc, je me défends avec mon bouclier et mon marteau.
Tu y vas encore de tactique, une tactique judicieuse qui va fonctionner. Tu avais déjà un avantage de 10% par rapport à sa blessure, sa grave blessure, et cet avantage tactique. Tu fais donc ton jet à 70, frère Solomon. La balance penche.
Sacrement. Non.
Oh non, un autre réussite critique avec un 2.
Ils vont s'en mordre les doigts d'avoir traîné le célèbre frère commandant Solomon
sur
les îles de fer. C'est tout ce que vous avez! C'est tout ce que vous avez! Il a fallu que tu gardes tous ces beaux jets.
Ben
ce
oui!
Ce duel judiciaire, c'est très bien. Frère Solomon, quelle bonne tactique! Je n'y avais pas pensé. Hey, je te laisse décrire comment tu mets fin à la vie du célèbre capitaine neuf doigts, Euron Swann.
Alors que sa vision est bloquée, il vient frapper à maintes reprises. Je pense que je reçois trois fois, ça résonne sur mon bras gauche, lorsque ses coups viennent s'abattre sur l'écu. Et donc, sa vision étant diminuée, à ce moment-là, il va sentir la masse frapper son genou qui va éclater et on va voir des morceaux d'os s'éparpiller partout, le sang gicler, Euron tomber à la renverse et hurler de douleur comme n'importe quel homme à qui ça arriverait, la foule toujours silencieuse. Solomon va laisser tomber son écu et va se placer au-dessus d'Euron. Euron qui est sur le bord de l'inconscience, tellement la douleur est forte. Et Solomon va lui dire « Rejoins tes dieux, mon ami. » Et il va abattre son marteau pour mettre fin aux souffrances d'Euron. Suite à quoi, il va laisser tomber également le marteau. Et il va pleurer un ami qui vient de perdre.
Pendant un long moment, on va entendre ce marteau résonnait sur la pierre des anciens bâtisseurs, dans ce silence total, dans ce moment d'effroi que sont en train de vivre le peuple d'Éphernée. Seul le son des étendards que fait claquer l'éternel vent des montagnes remue ce calme troublant. Alors que tu viens de laisser tomber marteau et bouclier, Solomon, tu entends un craquement. Tu comprends assez tôt que ce bruit ne vient pas de l'extérieur, de l'arène ou des gradins, mais de toi, de l'intérieur de toi.
Tu as entendu, Solomon? Je crois que ton âme a craqué sous le poids de ta culpabilité. Tant de morts depuis tes 13 ans, depuis ton entrée dans l'ordre guerrier de la Rondache. Des morts que j'ai provoquées en tentant de te tuer, en vain. Et bien que je suis le responsable de celle-ci, tu ne peux t'empêcher de te sentir coupable, n'est-ce pas? Telle est ta nature, telle est ta faiblesse. Euron Swann, ce pauvre capitaine neuf doigts, était-il la victime de trop? J'en ai bien peur.
Tu reconnais la voix de la créature avec qui vous avez croisé le fer dans le champ derrière la ferme de neuf doigts, le Nécromant, un lieutenant de l'Empereur mort. Que ressens-tu en entendant à nouveau cette voix, Solomon?
Cette voix, surtout ses propos, font mouche. Solomon est frappé par la mort qui vient d'avoir lieu d'Euron. Effectivement, beaucoup de culpabilité. Il pense à la famille de l'homme qui l'avait accueilli. Les yeux plein d'eau, la vision embrouillée, je cherche partout autour de moi si cette voix dans ma tête a une provenance haute, justement, qu'en moi, je cherche la créature du regard.
À travers tes larmes, tu peines à voir les estrades qui t'entourent.
Les plans ont changé, frère Solomon. Tu n'es pas sans savoir que les visions des loin-voyants étaient floues, sujette à différentes interprétations. On t'y voit galoper devant la future armée de mon maître, l'Empereur mort. Commandes-tu la charge ou fuis-tu notre armée? Plusieurs enténébreurs ont supposé que tu commandais l'armée revenue du royaume des morts, d'où les complots ourdis contre toi et ton incarcération par les Maisons. Mon maître, lui, de son côté, a jugé que tu ne pouvais être son futur commandant. Ton âme était trop pure, ton désir de faire le bien trop enthousiasme. Mais à l'aube de son retour sur les terres de Babel, l'empereur mort a compris qu'il ne pouvait courir de risque. Soit tu es le commandant qu'il lui faut pour régner à nouveau sur Babel, soit tu es celui qui tentera de l'arrêter. Il ne peut donc que te tuer sans prendre le risque de perdre gros. Alors nous t'accompagnerons pour découvrir avec toi qui tu seras. Une voix de plus dans ta tête n'y changera rien, non?
Le temps semble s'être figé autour de toi, Solomon. Ta vision sur la foule est floutée. Tu vois bel et bien des lèvres bouger, mais aucun son ne te parvient des gens qui composent la foule. Est-ce que tu ressens ton cœur battre dans ta poitrine?
Je suis fessé. Les mots de la créature résonnent en moi et trouvent écho. J'ai de la difficulté à me reconnaître. Je vois le sang par terre, le sang frais que je viens de faire couler, le sang d'un homme qui méritait pas de mourir encore. Je suis en train de chercher une sortie et de m'y diriger d'un pas chancelant.
Effectivement, on te voit tanguer un peu alors que tu amorces tes premiers pas. Mais toujours cette voix que tu ne peux fuir et qui te poursuit.
Et je te fais un cadeau, Solomon, en gage de ma bonne foi, de notre nouvelle relation. Je suis l'un des 4 lieutenants de l'Empereur Mort venu sur Terre pour préparer son retour, comme tu le sais maintenant. Bien avant l'arrivée de l'Empereur dans le Royaume des Morts, moi, j'y étais déjà depuis longtemps. Et laisse-moi t'assurer que ton mentor dans la ténèbre, l'homme qui se fait appeler Caliban et qui prétend être l'âme d'un défunt, n'en est pas un. J'ignore ce qu'il est, cependant. Tourne-lui le dos, abandonne-le, et je pourrai te guider dans la ténèbre, moi qui suis un nécromant.
Caliban, ton mentor qui te guide depuis tes 13 ans, peux-tu faire confiance à cet être qui loge dans ton esprit désormais?
Alors Solomon va continuer son avancée comme s'il tentait de fuir les paroles, et dire, on peut l'entendre dire, murmurer en fait, Caliban, est-ce vrai? Est-ce que c'est vrai tout ce qu'il dit?
Nul ne te répond, Solomon. Tu n'entends que ta respiration rapide, paniquée.
Tu verras bientôt le Dominion tomber, ce royaume qui t'a trahi, en te laissant pourrir en cellule. L'un des 4 cavaliers a manipulé tout un peuple pour qu'il s'attaque au Dominion. Et rien à voir avec ces pauvres fermés et leur découverte de leurs bâtons de tonnerre. La terre va bientôt trembler, Solomon. Reste à savoir où tu te tiendras, à savoir si tu perdras pied. Il faut se débarrasser de la Guanaque aussi. Elle voudra retourner vers son peuple, ce qui te détournera du droit chemin. Tu peux me faire confiance, frère Solomon. Je ne nuirai pas à l'homme qui a toutes les chances de devenir mon futur commandant. Te nuire serait me mettre en très mauvaise posture pour mon futur. Réfléchis. N'en as-tu pas assez de ces complots, de ces rois, de leurs manigances? Les citoyens ne sont que des pions pour eux. Avec toi, à la droite de l'empereur mort, les guerres cesseront et les intrigues qui mettent à mal ces pauvres gens des terres de Babel ne seront plus qu'un souvenir. Je le sais, je le ressens. Je le sens, ton dégoût pour ces rois et leurs enténébreurs qui leur murmurent à l'oreille. Toi et l'empereur mort, vous pouvez changer tout ça, tous les peuples sous une seule bannière.
Toi, Solomon, qui as tant vu et tant subi les intrigues et les complots des rois, est-ce qu'un tel discours peut trouver chemin dans ton esprit et ton cœur?
Tout à fait, et c'est ce qui est en train de d'effrayer Solomon, un mélange de sentiments de culpabilité puis de désir que justice soit enfin faite, mais à quelque part, il veut... cherche aussi à me rattacher à mon humanité, à mon âme, et avec ses promesses de guerre et de massacre, Solomon voit la silhouette féminine de Kellan qui lui tourne le dos et il lève la main hein, dans le vide pour les spectateurs qui regardent et il l'appelle Kellan.
Ah, ta lumière, Solomon, ton seul amour. Mais tu y as tourné le dos il y a 4 ans. Tu as choisi de sauver ton régiment, de faire cesser cette guerre sur le sol mésoïen. Mais oui, rattache-toi à cette lumière. C'est tout ce qui te reste.
Solomon, alors que la caméra revient sur toi, on a un zoom arrière et on comprend au décor qu'on découvre derrière toi que nous ne sommes plus dans cette arène, ce lieu qu'on nomme le sanctuaire, mais dans la forteresse de la ville de Pyke, qui sert de lieu de résidence royale pour le roi de Rock, le roi Gunthor Timbal. Il est du haut des marches. Il n'est pas sur son trône, peut-être pour ne pas offenser l'autre roi qui est à côté de lui, le roi de Sel. Greifer, tu peux le sentir. Tu sens que la rage en dedans de lui pourrait exploser. Et je pense que tu sais pourquoi. Hein?
Ah, ben, avec toute la rancœur qu'il y avait, et là, je viens de l'humilier une deuxième fois. Ben, mon père l'avait humilié une première fois, et là, il vient de l'être une deuxième fois en ayant payé le gros prix à la côte de Mezzo. Sa position et sa frustration vont en être décuplées. Je suis très conscient que je viens de me faire un ennemi mortel. Et le roi Timbal, également, veut pas, il doit avoir une certaine tension. Je l'ai viré dans ses culottes quand il venait avec sa proposition. Puis là, en plus, je pars de là en vie, sachant très bien qu'il a l'intention d'assassiner... nouveau roi du Dominion, puis qu'il y a une guerre qui s'en vient. Je suis un élément extrêmement dangereux là, pour eux, là, surtout avec les informations que j'ai acquises pendant mon court séjour sur leur île.
Frère Solomon, tu ne cesses d'accumuler les ennemis.
Bien malgré moi.
C'est ton karma. Effectivement, tu as devant toi deux rois des plus insatisfaits. D'une part, parce que oui, tu as gagné ce duel, mais sans bénéfice pour le roi de Rock, le pauvre roi Timbal, parce que tu t'en repars, mais tu ne vas pas tuer le descendant du défunt roi Marcus, Joach. Et pour Greifer, ben c'est peut-être son trône qui est en jeu. Lui qui a fait signer au Fernet 5 ans de paix avec la plus importante flotte commerciale de Babel, il y a fort à parier que si jamais Greifer devient un ennemi qui te court après, ce ne sera pas un roi, mais un capitaine de navire. Peut-être devinant toute cette amertume dans le roi de Rock et cette colère dans le roi de Sel, c'est Griva qui va descendre quelques marches, aller à ta rencontre. À ta droite, tout au fond, bien surveillé par les gardes, tu vois Ygritte et Kenan qui sont côte à côte. Ygritte te surveille. Kenan, lui, a la tête basse, fixant ses pieds. Le vieux Griva descend encore quelques marches. Les Fernets ont donné leur parole. Il y a eu duel judiciaire. La justice divine a rendu son jugement. Frère Solomon, vous avez gagné. Le dieu noyé a jugé que vous n'étiez pas responsable des crimes odieux de votre père, Tanis Santagar. Comme promis, nous vous reconduirons à la destination de votre choix. La voile noire, le navire du défunt capitaine Euron Swann,
sera à votre disposition. Votre brillante victoire a laissé les Fernés pantois, mais déjà, des rumeurs courent. La grogne monte de plus en plus dans les rues de la capitale, frère Solomon. Si j'étais vous, je repartirais immédiatement pour votre dominion.
Alors, messieurs, merci pour l'accueil et au plaisir de ne pas vous revoir.
Tu vas me faire... Tu as combien en cerner quelqu'un?
Cerner quelqu'un? C'est pas ma force. 4 de Héna.
Tu vas me faire un jet à 40%.
Ah ouais, donc un succès critique.
Hey, là, lâche-moi un peu.
Oh non, là, non, 83.
Très bien. Alors que tu vas rebrousser chemin et que Ygritte et Kenan vont...
Ah, mais si tu me permets, excuse-moi de t'interrompre, j'utiliserai peut-être, je sais pas, là, mon état émotionnel.
Ben oui, il est là.
Il est là. Et puis, regarde, je viens d'envoyer une bravache parce que je suis en colère après eux, tu sais. J'ai été obligé de tuer Euron, puis j'en ai plus qu'assez de leur façon de faire, de leur manipulation, parce que c'est encore ça qui a coûté la vie à Euron Swann, la manipulation de roi.
Effectivement. Et donc, en utilisant ton état émotionnel, tu vas une réussite partielle. Donc, tu vas avoir certains éléments. Tu vas comprendre certaines choses. Tu vois un signe très discret que le roi de Sel, Greyfer, a fait à un conseiller, à Hendrix. Sans doute que ce roi n'a pas autant d'honneur que Euron. Sa vengeance n'a pas été assouvie. Solomon, et sa vengeance, il la veut. Alors tu le sais, en sortant de cette forteresse, tu sais que tu vas avoir un ennemi à tes trousses.
Au prochain épisode, l'épilogue des Chroniques de Babel, avec le retour de tous vos héros.